tombent les petits papiers par terre, les capsules et les canettes, tombent les bouteilles de verre, les paquets de cigarettes. Je me balade en slalom, je marche sur un journal, je m'engle sur un chewing-gum et vous trouvez.
Bonjour à tous, bienvenue sur La Rage à l'émission Trillon Malin. Adeline Fouquet au micro, je suis en compagnie de Philippe Pierrot, animateur du tri sur la CCVI. Donc bonjour Philippe.
Bonjour.
Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'obsolescence programmée. Donc Philippe, qu'est-ce que c'est l'obsolescence programmée ?
Donc l'obsolescence programmée, c'est une pratique des industriels qui, dès la fabrication, vont décider à partir de quand leur outil ou leur machine va tomber en panne.
Donc on décide déjà quand les machines vont tomber en panne ?
Tout à fait.
Très bien. Tu peux nous donner quelques exemples ?
Alors en fait, ça remonte à quand même quelques années. Et en 1940, il y a une industrie chimique qui a mis en place des bas en nylon, DuPont de Nemours pour ne pas les nommer, entreprise américaine. Et cette entreprise a été le leader du marché et a vu ses ventes croître. Et à un moment, il y a une stabilité des ventes. Ils se sont rendus compte que le produit qu'ils avaient mis en place était d'une telle qualité qu'en fait, les acheteurs n'en achetaient plus. Donc l'obsolescence programmée, ça a été pour installer juste dans le process un élément qui fait que les bas en nylon qui étaient indestructibles sont commencés à se filer. Et l'intérêt, c'était que l'entreprise puisse encore en vendre.
D'accord, donc quand on achète, je ne sais pas, une machine à laver, en fait l'idée c'est qu'elle tombe en panne dans, je ne sais pas, 2-3 ans après pour qu'on puisse en racheter.
Dans le cas des machines à laver, jusqu'à présent il y avait des tambours de lavage qui étaient en aluminium, en inox. Ils ont changé, ils ont mis des tambours en plastique et dans le tambour il y avait juste une pièce métallique. Et comme chacun sait, la machine à laver, ça tourne. Et donc cette pièce métallique, en tournant, venait éroder le plastique et faisait qu'au bout d'un certain nombre de cycles, le tambour était fissuré. Donc là, on est typiquement dans l'obsolescence programmée.
Et ça concerne quoi, par exemple ? Enfin, c'est les petits et gros électroménagers ?
À la limite, ça peut concerner tous les objets de la vie du quotidien. L'intérêt, c'est que pour l'industriel, de vendre son produit. Donc, il l'a mis sur le marché et il sait qu'au bout de 3, 4 ou 5 ans, en fonction du produit, il aura d'autres clients.
Très bien. Donc, oui, même les ordinateurs. En fait, tout ce qu'on utilise, finalement, c'est fait pour que ça ne dure pas.
Par exemple, une imprimante, on va mettre sur les circuits imprimés une sorte de compteur. Et le compteur va comptabiliser un nombre de copies qui va être préprogrammé. Par exemple, je vais programmer mon imprimante pour qu'elle fasse 1500 copies. Et une fois que le compteur aura décelé 1500, la machine s'arrête. Donc ça veut dire que la machine a le potentiel de continuer à marcher, sauf que le compteur ayant excédé 1500, et ben l'imprimante est hors d'usage.
Alors, il est vrai que ce système permet aux usines de continuer et ça permet le travail de chacun d'entre nous. Mais à côté de ça, quelles sont les conséquences sur l'environnement ?
L'environnement, il faut le voir plus global. C'est vrai que si on prend que l'environnement en soi, ça a des aspects néfastes. Mais l'environnement, il faut le prendre aussi sur l'environnement social et l'environnement économique. Il faut que les gens puissent travailler et il faut que le pays soit dynamique. Donc l'obsolescence programmée participe malheureusement à la croissance. Alors si là c'est l'aspect négatif, l'aspect positif, c'est-à-dire que une imprimante qui est hors d'usage parce qu'elle a dépassé ses 1500 copies, si je la ramène en déchetterie ou si je la ramène chez un réparateur, tout l'ensemble de la machine peut marcher. Il suffit juste de remplacer la pièce ou bien de récupérer les matières pour que les matières participent à faire une autre imprimante ou un autre appareil.
Donc c'est tout un système finalement qui fait l'économie du pays.
Malheureusement, oui.
Très bien. Et mais quelles sont les solutions pour agir contre ce phénomène ? Parce que malgré tout, ça nous fait toujours dépenser à chaque fois.
On dépense, oui, effectivement. Mais alors, l'ADEME vient de lancer une campagne qui s'appelle Réparacteur. Aujourd'hui, on a un mal fou à trouver un réparateur pour un téléphone ou pour une imprimante. Donc, l'ADEME va être porteur sur son site d'une liste de réparateurs qui pourraient réparer ces imprimantes ou qui pourraient réparer ces machines à laver qui, jusqu'à présent, n'étaient pas réparables. Donc, ça veut dire que l'obsolescence programmée est là, mais on essaie de trouver des solutions pour permettre quand même que l'industrie produise, donc qu'il y ait la croissance au niveau de la France, mais que ceux qui font le choix de réparer puissent le faire. Aujourd'hui, on était un peu sur... mon imprimante, elle est cassée, elle n'est pas réparable. Avec des actions telles que celles portées par l'ADEME, on se dit on a un choix. On n'est pas toujours obligé de changer de matériel. On peut faire le choix de trouver le réparateur à proximité de chez soi pour que mon imprimante ne finisse pas en déchetterie.
Très bien. Donc, après cette petite intervention sur l'obsolescence programmée, donc nous allons faire une pause musicale avec Sef Duo, Blue Hotel. C'était un morceau de Sef Duo, Blue Hotel. Donc Philippe, tu nous as expliqué juste à l'instant l'obsolescence programmée. Peux-tu désormais nous expliquer ce qu'est l'obsolescence systémique ?
Donc la systémique, c'est le fait de l'usager qui, lui, décide de changer d'appareil pour avoir le modèle dernier cri, le modèle à la mode.
Comme le téléphone portable où il faut changer dès qu'il y a le nouveau ?
Voilà. Bien que le modèle ancien ne soit pas hors d'usage, c'est de vouloir toujours obtenir le dernier modèle et d'être, de ne pas être ringardisé.
Ce phénomène, c'est quoi ? C'est la société qui nous inculque ça ?
Ah, je ne sais pas. C'est effectivement, on est dans un phénomène de consommation où la pub est omniprésente et la pub vous présente à chaque fois les dernières modèles sortis. Donc, on est effectivement... l'objet de beaucoup d'images et mais c'est pas facile de résister.
On peut pas s'en passer.
Voilà.
Et depuis quand ce phénomène a lieu ?
Pareil que l'obsolescence programmée, c'est que pour qu'on puisse nous vendre des produits, il y a des campagnes marketing, il y a de la pub et la pub joue sur ça. En fait, on est sur un renouvellement des matières, donc pour le renouveler, alors que, je sais pas, par exemple, si on prend un téléphone portable, sa durée de vie, c'est 5 ans. Les fabricants ne peuvent pas attendre tous les 5 ans pour revendre des matériaux. Donc, ils nous montrent, ils mettent en scène les dernières sorties.
Et est-ce qu'il y a un public plus touché par ce système ou on est tous touchés et malheureusement on fait et on achète les matériaux, les téléphones ou même les ordinateurs? Je pense que ça doit bien fonctionner aussi.
Les publicitaires, on va avoir des cibles différentes en fonction des appareils. Un téléphone, ça va être plutôt sur les jeunes. Et puis après, les télés, ça va être plutôt sur les trentenaires ou 40, les gens de 40 ans. À chaque matière, sa cible.
Oui. Et les conséquences sur l'environnement sont les mêmes que l'obsolescence programmée, du coup?
C'est un petit peu différent parce que l'obsolescence programmée, l'appareil est hors d'usage. Ça veut dire que quand il ne marche plus, on n'a pas tendance à le garder, on a tendance à le jeter. Et je vous rappelle quand même que les déchetteries sont accessibles pour déposer vos appareils électriques hors d'usage. Alors que l'obsolescence systémique, le téléphone portable ou bien les appareils photos restent, ils peuvent encore marcher. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on les garde. Et en général, on le garde dans un tiroir en disant « on ne sait jamais ». Et des études disent qu'il y aurait à peu près une vingtaine de millions de portables qui seraient comme ça, en état de marche, qui seraient stockés dans des tiroirs en « on ne sait jamais ».
Ce qui représente quand même.
Alors ce qui représente, c'est important. Et il faut se dire que pour faire des téléphones portables, il faut des métaux précieux. Donc là, on va avoir besoin de métaux précieux pour en refaire d'autres, en sachant qu'on a quelque part des mines d'or qui sont stockées dans les placards.
Et quelles sont les solutions pour agir sur ce phénomène?
Être un peu raisonnable, dire qu'on peut très bien avoir envie du dernier téléphone portable, mais si le téléphone actuel marche, est-ce qu'on ne peut pas le garder 6 mois ou 1 an de plus et ne pas être... à chaque fois vouloir l'appareil dernier cri.
Déjà, avoir conscience de ce phénomène, c'est déjà, je pense, une bonne solution.
Oui, 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 bien sûr.
Et puis, je ne sais pas, peut-être qu'au lieu de garder chez soi, dans son placard, beaucoup aussi, je pense que ça marche, c'est aussi les sites sur l'occasion.
Oui.
Même dans les magasins maintenant qui revendent. Ça peut, je pense, permettre peut-être de réduire et puis convenir à d'autres usagers.
Voilà, on peut donner une seconde vie à un appareil qui marche. Oui. Bon, quelque part, on peut se considérer comme ringardisé si on a un téléphone qui a 2 ans. Mais je rappelle qu'un téléphone portable, ça sert à téléphoner.
On va dire ça aux jeunes. Le téléphone sert à téléphoner. Très bien. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter ou pas, Philippe, sur l'obsolescence systémique?
Alors, que ce soit l'obsolescence systémique ou bien l'obsolescence programmée, la déchetterie ou même les magasins d'électroménager sont des lieux où on peut déposer les appareils hors d'usage. Ils vont être soit dépollués, soit recyclés et ils auront une seconde vie.
Nous allons désormais aborder donc la foire aux questions qui peut-être aider certains usagers à mieux trier les déchets. Donc Philippe, faut-il retirer les bouchons de bouteilles avant de jeter?
Non, les bouchons sont comme les bouteilles, ils sont en plastique, donc on est capable de les recycler.
Peut-on chiffonner le papier avant de le jeter?
Comme on veut, chiffonner ou bien non chiffonner, on va pouvoir le recycler sans problème.
Les boîtes cartonnées qui enveloppent les pizzas achetées à emporter peuvent-elles être jetées dans les sacs jaunes? Parce que le carton est quand même plus épais que les petites cartonnettes.
Alors si la boîte de carton ne contient pas de la sauce tomate, des champignons, le carton est valorisable, donc il peut être mis dans le sac jaune.
Et pour les cartons beaucoup plus épais, c'est la déchetterie.
Ce qu'on appelle le carton ondulé ou le carton épais, en général il est carton brun. Il n'est pas pris en porte-à-porte, donc il est à déposer en déchetterie pour être valorisé.
Donc si vous souhaitez davantage de renseignements sur les déchets ménagers, n'hésitez pas à aller sur le site de la CCVI, www.ccvi.fr. Donc merci à Philippe Pierrot pour cette intervention et au revoir.
Au revoir.
Tombent les petits papiers par terre, les capsules et les canettes, tombent les bouteilles de verre, les paquets de cigarettes. Je me balade en slalom, je marche sur un journal, je m'engle sur un chewing-gum, et vous trouvez ça normal?